Chapitre 71. 70 minutes après que la voiture de la veuve a été retrouvée derrière le silo de Grilby, un poste de commandement a été établi devant la station-service à l'intersection de Lenzwegen et Storgatan. Deux fourgons noirs, trois voitures et un bus de commandement sont positionnés devant les barrières de la station ornées de drapeaux rouges. 6 opérateurs de l'unité d'intervention ainsi qu'une équipe UAS spécialisée en drones sont sur place. 2 ambulances, un camion de pompiers et 4 voitures de police attendent sur le parking derrière le supermarché. Yuna a garé son véhicule de manière à pouvoir repartir rapidement si nécessaire. Pendant près d'un siècle, les trains se sont arrêtés à Grilby, mais ça a cessé dans les années 1970. Depuis, ils ne font que traverser la vieille station. À côté de l'autoroute, le village s'étend au milieu d'immenses champs enneigés parcourus par la voie ferrée. La seule chose qui, de loin, distingue l'endroit est l'énorme silo en béton humide. Telle une église brutaliste, il s'élève là, avec une immense nef flanquée de 4 demi-colonnes de chaque côté et un clocher carré qui se dresse à 54 mètres de hauteur. Le long d'une haute clôture surmontée de 3 rangées de barbelés qui suit la voie ferrée, s'aligne une maison en briques de 4 étages aux fenêtres condamnées, un hangar de tôle ondulée et un conteneur bleu. Coincés entre le silo et le hangar, 3 anciens quais de chargement couverts témoignent d'une époque où les camions venaient s'approvisionner en céréales. Les opérateurs de l'unité d'intervention vêtus de noir patientent à l'abri derrière les véhicules. Ils consultent une dernière fois leur téléphone, ajustent les sangles de leurs gilets pare-balles, vérifient leurs armes, leurs chargeurs, les grenades assourdissantes et les masques respiratoires. Les drapeaux claquent sous l'effet du vent qui se renforce et la neige tournoie au-dessus du parking. Yuna a enfilé un bonnet noir, des vêtements d'hiver et des bottes. Il porte son lourd gilet pare-balles en céramique sur l'épaule et avance pour serrer la main du chef d'équipe, Jamal. « Merci d'être venu si vite, » dit-il. « Pas de souci, » répond Jamal. Jamal a des yeux couleur cacao et une petite barbichette noire. Son casque est posé au sol, entre ses bottes, et sa carabine automatique Éclair & Coq est pendue à sa hanche par une sangle. Le commandant du groupe d'intervention met fin à un appel téléphonique et s'approche d'eux. C'est un homme aux cheveux blancs, vêtu d'un manteau d'hiver et d'une chapka. Il leur tend une tablette pour leur détailler le plan d'action avec les trajectoires d'approche et les zones de rassemblement. Les 3 hommes se mettent rapidement d'accord sur les différentes étapes de l'assaut. « Écoutez-moi !» lance Yuna d'une voix forte, attendant que toute l'équipe lui prête attention. « La suspecte vient de tuer 2 collègues. Elle est extrêmement dangereuse, mais jusque-là uniquement armée d'une hache, même si nous ne pouvons pas exclure la présence d'armes à feu. » « Prenez vos positions et attendez les ordres, » ordonne le commandant. « On va la voir, cette ordure !» crie Jamal. Yuna se dirige vers la petite équipe UAS, 2 hommes en doudoune épaisse et bonnet, postés derrière une voiture noire. Dans le coffre ouvert se trouvent des valises en aluminium contenant des batteries supplémentaires, des émetteurs et divers équipements. UAS signifie « Unmanned Aerial System ». Ce qui signifie simplement des drones équipés de caméras de jour et de caméras thermiques. La police a imposé cette appellation un peu maladroite pour faciliter la communication lors des interventions et distinguer ces drones de tous les autres.
« Vous pensez quoi du temps ?» demande Yuna.
« Ce n'est pas idéal, » répond l'un des opérateurs en jetant un regard vers le silo.
« Ça ira, »
ajoute l'autre en crachant au sol un sachet de snus. Le drone émet un bourdonnement et ses 4 rotors vrombissent.
« Prêt ?» demande le chef. « L'espace aérien est fermé, » répond son collègue.
L'appareil s'élève à la verticale jusqu'à atteindre 200 mètres d'altitude. À travers la neige qui tombe, il devient presque invisible. Yuna retire son bonnet et entre dans le grand bus de commandement. 7 personnes, dont l'officier opérationnel, sont assises devant une rangée d'ordinateurs. Yuna tire une chaise et s'assied à côté du coordinateur. Sur les écrans, il peut suivre en temps réel les images transmises par l'appareil. Des routes étroites, des jardins et de petites maisons défilent sur l'écran, puis le drone se stabilise en vol stationnaire au-dessus du silo, ballotté doucement par le vent. Tout en bas, ils aperçoivent l'immense bâtiment en béton avec des antennes sur le toit, le hangar de tôle ondulée, la maison aux tuiles moussues, le conteneur bleu, la clôture et les doubles voies ferrées. Les rapports des unités de reconnaissance continuent d'affluer, signalant qu'aucun mouvement n'est détecté sur le site.
« On va regarder de plus près », dit le responsable UAS.
Le drone glisse latéralement et la caméra optique zoome sur les portes fermées du hangar, puis glisse jusqu'à la maison en briques. L'image pivote lentement. Sous le toit de l'un des quais de chargement, on distingue l'arrière de l'Opel. Une bourrasque violente fait tanguer le drone. La caméra capture un bosquet et les maisons derrière la voie ferrée avant de se stabiliser. Jamal envoie un court rapport disant que ses hommes sont en position et attendent les ordres. La caméra balaye la cour encombrée de débris, le toit du conteneur bleu recouvert d'une fine couche de neige sur un lit de feuilles mortes noircies. Fait le tour de la maison, survole le talus envahi de broussailles, la clôture, le ballast et les traverses en béton.
« On passe en caméra thermique !» annonce le chef UAS.
L'écran de l'ordinateur se divise en deux. À droite, une image grisâtre révèle les contours noirs des bâtiments et des rails. Un lapin incandescent, jaune vif, bondit prestement sur le talus. Le drone repasse au-dessus du site. Soudain, sur l'écran, apparaît une masse orangée aux contours bleus, comme une coulée de lave qui pulse.
« Jamal, à vous !» lance le commandant sur sa radio. « Ici Jamal, à vous !»
Un individu a été repéré dans la maison en briques. Préparez-vous à entrer.
Pouvez-vous préciser l'emplacement ? Demande Jamal.
Près de l'angle sud-ouest.
Quel étage ?
La maison en compte 4, précise Jamal.
Impossible de le déterminer.
On ne pourrait pas descendre le drone pour mieux voir ? Propose le coordinateur en buvant une gorgée de Coca-Zéro.
Il ferait trop de bruit, rétorque le chef UAS. Jamal, prenez position pour l'assaut. Attendez les ordres, ordonne le commandant.
Yona remet son bonnet, quitte précipitamment le bus et monte dans sa voiture. Il s'approche prudemment du silo en empruntant magazine Skatan et gare son véhicule derrière un bosquet. Les essuie-glaces repoussent la neige légère du pare-brise. Depuis l'écran tactile de la station Pullman, il peut suivre les images du drone. Il voit 6 opérateurs s'approcher du bâtiment, tel un banc de méduses incandescentes. Un long train de marchandises approche sur la voie ferrée. La neige commence à recouvrir la cour en gravier. À travers la vitre, Yuna aperçoit 2 des hommes appuyés contre l'immense nef du silo.
« On peut descendre le drone sous le couvert du bruit du train », propose Yuna.
« Bonne idée », répond le chef UAS.
Le drone plonge rapidement vers la cour devant la maison, tandis que le vacarme du train résonne derrière le silo. Yuna sort son Colt Combat, vérifie son chargeur et le remet en place. Le drone s'immobilise en vol stationnaire à 2 mètres du sol. La neige fine vole en croix sous ses rotors. La caméra thermique s'incline et révèle que la source de chaleur est au rez-de-chaussée du bâtiment.
« La cible est au niveau du sol », confirme l'officier dans sa radio.
« Reçu », répond Jamal.
« Attendez l'ordre ».